Actu SF, les podcasts.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents sous ce Magic Mirror pour cette rencontre avec Marie Brennan. Alors, il faut savoir que pour nous, équipe d'organisation, équipe de modération et traduction des imaginales, c'est toujours très agréable d'accueillir des auteurs étrangers chaque année. C'est encore plus agréable quand ils reviennent, parce que finalement, ça nous donne l'impression que la première fois a plutôt été agréable, qu'ils n'ont pas été trop martyrisés. C'est le cas avec Marie Brennan, puisqu'elle n'était parmi nous il y a 2 ans maintenant, suite au prix imaginal qu'elle avait reçu pour l'histoire naturelle des dragons. Et nous sommes ravis de la retrouver sous les Magic Mirrors pour... apprendre un peu plus à la découvrir, à découvrir son travail, à travers également le nouveau roman, enfin nouveau pour nous parce que c'est un roman qui a été publié à l'origine il y a une dizaine d'années et qui a été traduit suite au succès de l'histoire naturelle des dragons. On va vous emmener à la cour d'Onyx et vous verrez que c'est... On rejoint certaines thématiques de notre salon cette année, puisqu'on sera plongé en pleine fantaisie historique, ce qui nous ramène aux discussions qu'on a pu avoir avec le colloque qui a ouvert cette édition des Imaginales. Marie Brennan, d'abord, première chose, puisque j'évoquais le fait que c'est votre deuxième visite parmi nous, quel souvenir gardez-vous de votre première venue à Épinal ?
So Imaginal is absolutely lovely. We have many book conventions in the United States, but they're generally held in kind of depressing hotels, conference rooms, things like that. But we also have events that are called Renaissance festivals, even though they're only loosely connected to the Renaissance. And they basically look like what you see outside with all of the tents and people selling jewelry and swords and costumes and things like that. And so the first time that I came to Imaginal, I walked out into this park and thought, why has nobody in the United States thought of combining a book convention with a Renaissance festival? This is genius. We should have been doing it years ago. And it helped that we had absolutely lovely weather that year. I'm told it's traditional for it to rain on Imaginal, but here I am my second time and there's been almost no rain, so...
Alors, c'est vraiment génial d'être ici aux Imaginales. On a des conventions aux États-Unis, hein, mais en général, ça se passe dans des hôtels complètement déprimants. Donc ici, c'est quand même vachement mieux. Et puis après, on a aussi ce qu'on appelle des Renaissance Festivals, donc festivals de Renaissance, qui n'ont pas grand-chose à voir avec la Renaissance, en fait, mais où on trouve un peu ce que vous trouvez ici dans le parc, c'est-à-dire des gens qui vendent des épées, des bijoux. Et du coup, la première fois que je suis venue et que j'ai traversé le parc, je me suis dit, mais c'est génial, pourquoi on n'a jamais eu l'idée aux États-Unis de regrouper les deux pour faire un seul et même événement ? Et en plus, déjà, il y a 2 ans, il faisait beau, alors qu'on m'a souvent dit qu'aux Imaginales, il pleuvait très souvent. Et ben moi, ça fait 2 fois que je viens, 2 fois qu'il fait beau, donc j'ai bien de la chance.
Je vais en parler à Stéphanie, il faut qu'on vous réinvite. Il y a une petite différence aussi, c'est que finalement, quand vous venez la première fois, les festivaliers ne vous connaissent pas forcément, ils vous découvrent. Là, vous revenez, ça veut dire qu'aussi vous rencontrez certaines personnes qui vous ont lu entre les deux festivals.
Yes, very much. I was delighted to come here and just sit down at the table, and now there's more than one book in front of me. I mean, technically, my first 2 novels had been published in French some years ago, Guerrière and Sorcière, but they're kind of hard to find. I think they're out of print. And so a few people had read those, but mostly I had people walking up and saying, oh, well, I heard that this book won the Prix Imaginal. I would like to pick it up. Very few people had read it yet. And yes, now this time I come back and I have people talking to me about having read part or all of the series. I had one person come up and tell me how much I had upset her with a particular bit of plot, which was one of those, there's a phrase that we use sometimes in English of sorry, not sorry. and it was one of those kinds of things because it is the writer's job to make the reader feel something. And sometimes what they feel is sadness. So I'm sorry they're sad, but I did my job correctly. But yes, it's great to be here, to have more than one thing that people have read, more than one thing that is out, and really feel like I can, with Hélène's help here, have a bit more of a bond with readers. Because certainly some of the people who come up to me speak fairly good English, but my French is basically only what I can get out of high school Spanish and Latin. So I'm very dependent on other people to help me communicate. But I like being able to make that connection with readers over what they have read in the intervening years.
Alors oui, c'est vraiment super d'avoir plus d'un seul livre devant soi, hein, sur la table. Y a deux de mes romans qui avaient été publiés il y a un certain temps, mais elles sont assez difficiles à trouver, je crois qu'elles ne sont plus en impression. Et du coup, y avait très peu de gens qui m'avaient lu à l'époque. Donc souvent, les gens venaient me voir et me disaient « Ah, j'ai entendu que votre livre il a eu le prix Imaginal, donc j'aimerais bien le lire », mais personne n'avait lu jusque-là. Donc là, maintenant, il y a des gens qui ont lu un ou plusieurs romans de la série de Lady Trent. Et j'ai quelqu'un qui est venu me voir en me disant qu'elle avait été traumatisée par une partie de l'histoire. Et on a une expression en anglais qui dit « sorry, not sorry »,« désolé, pas désolé ». C'est-à-dire que je suis désolée qu'elle ait été traumatisée par cette histoire, mais techniquement, le travail de l'écrivain, c'est de faire ressentir quelque chose au lecteur. Donc quelque part, c'est que j'ai bien fait mon boulot. Donc c'est vraiment génial de rencontrer des gens qui ont lu mes romans, et puis avec l'aide d'Hélène également, j'arrive à communiquer avec les gens, parce que bon, la plupart des gens parlent un petit peu anglais, mais moi, en gros, je mélange mon latin et mon espagnol du lycée pour essayer de parler français, donc forcément c'est un peu difficile, mais c'est très très intéressant justement de pouvoir échanger avec les lecteurs.
Alors vous venez cette année avec, pour nous en tout cas, lecteurs français, une nouveauté. Même si La Cour d'Onyx a été publiée avant l'autre série Lady Trent. Ça s'appelle donc La Cour d'Onyx. Le premier tome s'appelle Minuit jamais ne vienne. Et là, nous sommes dans de la fantasy historique. Vous nous emmenez alors dans une période qui, pour nous, n'est peut-être pas, pour nous Français, n'est peut-être pas celle qu'on connaît le mieux. On a peut-être un certain nombre d'images en tête, et d'ailleurs l'image, on en reparlera parce que ça a une place importante aussi dans la manière dont vous avez conçu cet univers. Mais finalement, on connaît assez mal ce siècle élisabétain. La première chose, question un peu bateau, mais comment vous est venue cette envie d'aller traiter de cette période particulière, et en particulier du personnage d'Élisabeth Ier?
The Elizabethan period for English speakers, and I think probably more so in Britain, but even in the US, that is a period of history that we're, I wouldn't say familiar with, because most people don't really know the history all that well, but it's one that we know and we see a lot, that you're much more likely to see something set during Elizabeth's reign than 50 years earlier or 50 years later. I'd say, if anything, it might be comparable, I might be wrong about this, to like Louis XIV, that even if you don't really know your history, you know who that is, you have mental images of that society. That's the Elizabethan period for us, in part because this was the time later in her reign when Shakespeare started writing. So between this very famous queen, who was built up into this very vivid image, even in her own time, and the fact that Shakespeare started writing around then, that means it's a time period that writers actually gravitate to a lot in English. Like, there's so many Elizabethan fantasy novels out there. And it's also it's an iconic time because it's one of the few periods of our history where there was, for an extended period of time, a reigning queen instead of a king. And I mentioned that she was kind of this iconic image. It's because in order to keep her in power, they really did deliberately build up an image around her of trying to make her seem like more than an ordinary woman. And so it was basically propaganda, like public relations of the 16th century. And that's had its effect. Hundreds of years later, we still remember her very, very clearly. And it makes it an interesting period to write in because of the way it's been deliberately mythologized by history itself.
Alors l'époque d'Élisabeth Ier, pour les gens qui parlent anglais, on connaît peut-être pas forcément très bien, mais on connaît parce qu'on en voit beaucoup. Par exemple, on a beaucoup plus de romans qui se passent à l'époque d'Élisabeth que 50 ans avant ou 50 ans après. Ce serait l'équivalent peut-être, alors je me trompe peut-être, hein, mais de Louis XIV en France, c'est-à-dire que même si on ne connaît pas forcément tous les détails de son règne, tout le monde connaît Louis XIV, sait qui c'est, et a un certain nombre d'images associées à ce nom. Et comme en plus, au cours du règne d'Élisabeth, il y a eu Shakespeare en plus qui s'est mis à écrire, forcément entre cette reine et même à son époque à elle, hein, ils en ont créé une espèce de mythe, cette reine-là plus Shakespeare, il y a beaucoup, beaucoup de romans de fantasy qui parlent de cette époque de l'histoire. Et il y a une autre chose qui nous marque, c'est le fait que c'est une reine et non pas un roi qui a régné pendant tout ce temps. Et donc ça, déjà, c'est pas souvent. Et pour la garder au pouvoir, en fait, il y a eu toute une propagande hein, de l'époque, c'est-à-dire pour la faire passer pour une femme pas ordinaire, en tout cas. Et ça a fonctionné, elle est restée au pouvoir grâce à ça. Et vraiment, c'est pour ça que cette période m'intéresse, parce qu'ils ont créé une espèce de mythologie autour d'elle, mais à l'époque même. Donc c'est vraiment ça qui m'intéressait.
Nous sommes donc, pour ceux qui ne visualiseraient pas bien, nous sommes à la deuxième moitié du XVIe siècle. Elle va régner jusqu'au tout début du XVIIe, où elle va effectivement, son règne va aussi être en parallèle avec la montée en puissance finalement de l'Angleterre dans l'Europe, face peut-être à la puissance espagnole d'un côté et à la puissance française de l'autre. La puissance espagnole qu'on retrouve d'ailleurs, et on en reparlera dans ce roman. Ça vous a amené donc ça pour la partie historique, et puis il y a la partie fantasy. Et là, d'entrée dans le prologue, on est fixé, puisqu'on a une rencontre qui nous est racontée, et qui est une rencontre un peu particulière qui va se sceller par un pacte. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est l'autre intervenante de ce prologue?
The origin of this novel really was me thinking about Elizabeth, and like I said, she got mythologized, and she was referred to sometimes as a fairy queen. There's a long poem in English called The Fairy Queen that was written kind of to curry favor with Elizabeth, and Gloriana was one of her nicknames, one of her epithets, a way of, you know, describing her glory. So the mental image that I had when I thought about combining fairies with the Elizabethan period was immediately that if she's this glorious figure, then there has to be some kind of dark mirror to it. And that was Invidiana, this fairy queen. So yes, in the beginning of the novel, before Elizabeth is the queen, there was a period early in her life when her sister Mary was queen that Elizabeth got imprisoned in the Tower of London, which was where noble and royal prisoners were kept. And this could very easily have been the prelude to her being executed, because you had the religious conflicts of the time. Mary was Catholic, Elizabeth was Protestant. So she was very, very frightened. She was a prisoner. She could easily have been killed. And the prologue of the book is that this stranger approaches her and says, "I'll offer you a deal. I'll help you get to your throne if you'll help me get to mine." And that's how both Elizabeth and Invidiana become queens of their respective courts. The rest of the book has to do with the effects of that deal and kind of the backstory that led up to it and why it's maybe not the best idea for either court to have the two of them locked together like that.
Alors, à l'origine du roman, vraiment, il y a ce mythe d'Élisabeth Ière. On a écrit des poèmes sur elle, et notamment, on l'appelait la reine fée. Elle avait aussi le surnom de Gloriana. Et du coup, dans ma tête, j'avais vraiment cette image. Si elle était, en gros, le soleil, la gloire, il y avait forcément une fée qui... Enfin, il pouvait y avoir une fée qui soit son reflet, mais sombre. Et du coup, c'est là d'où m'est venue l'idée du personnage d'Invidiana. Et donc, avant qu'elle ne devienne reine, Elisabeth est enfermée dans la tour de Londres par sa sœur, qui est reine, et elle risque d'être exécutée parce qu'il y a des gros problèmes entre les catholiques et les protestants. Marie, sa sœur, était catholique, Elisabeth était protestante, donc elle risque fortement de finir par être exécutée. Et du coup, dans le prologue, elle est dans la tour de Londres et il y a quelqu'un qu'elle ne connaît pas qui s'approche d'elle et qui lui propose de l'aider à accéder au trône si elle l'aide, cet inconnu, à accéder à un autre trône. Et du coup, on comprend que c'est comme ça qu'elles sont toutes les deux devenues reines de leurs cours respectives. Et du coup, au fur et à mesure du roman, on comprend que ce pacte qu'elles ont fait a d'autres conséquences et que c'était peut-être pas la meilleure idée du siècle de décider justement de s'allier de cette façon. Donc voilà, on étudie les conséquences de ce pacte.
Alors on verra que, évidemment, on parle beaucoup d'Elisabeth quand on parle de votre livre, Marie Brennan, de ce premier tome de La Cour d'Onyx. Or, elle va un petit peu s'effacer finalement. C'est plus une présence diffuse, contrairement justement à Invidiana, la reine des fées, qui elle a un rôle beaucoup plus actif dans le roman. Mais finalement, cette reine Elisabeth, elle incarne une période. Le roman ne se déroule pas sur la totalité de son règne. Vous avez choisi de parler d'une période assez brève qui dure 2 ans. Pourquoi précisément avez-vous choisi ces 2 années-là?
It was actually a little difficult deciding when precisely to set the book. I knew I didn't want it covering her entire reign because, as one often does with fiction, I wanted to choose the moment where things changed. There would have been years and years in which the effects of that pact were continuing along, and many complicated historical things would have happened that would have taken me forever to explain to readers because there's a lot of history taking place. But choosing which section of it to pick was difficult because there were a lot of very interesting people around Elizabeth as well, and there's a period in the middle of her reign where if I just shifted my window of time a little bit, there were new people who entered the scene or people who had been around that left, and so it was me going, which of these characters do I want to include? Then where do I kind of slice out my frame of narrative in order to get the ones that I want in there? But the reason that it was never going to cover her whole reign in detail is, number one, it would have just ended up too abstract, but also that Elizabeth and Invidiana are the figures who set the plot in motion, but they're not the protagonists of the novel. There's 2 different characters who are the actual main characters. And so the story is about them discovering this situation and deciding what to do about it. And yeah, I said that it's 1588 to 1590 are the 2 years that I chose. So it's just after the Spanish Armada tried to attack England and failed horribly, but before a couple of other people in Elizabeth's life start to go away because I wanted them in the story.
Alors, ça a été très difficile de choisir la période exacte où ça allait se passer, parce que je savais que je ne pouvais pas faire le règne entier d'Elisabeth, c'était juste pas possible. Il a fallu que je choisisse un moment où il y avait des changements dans la situation qui pouvaient m'intéresser. Si j'avais voulu faire le règne entier, il y avait plein de choses à justifier sur l'influence des fées, ça aurait pris trop de temps, c'était juste pas possible. Donc j'ai eu beaucoup de mal à choisir quel moment j'allais prendre dans le règne d'Elisabeth. Parce que alors j'ai pris un moment un peu charnière, mais où le problème, c'est qu'il y avait un moment où il y avait des nouveaux personnages qui arrivaient à la cour et d'autres qui partaient. Donc en gros, il a fallu que je choisisse le moment où il y avait les personnages qui m'intéressaient le plus. Et ça a été très compliqué. Si j'avais fait son règne entier, ça aurait été complètement abstrait. Et en plus, techniquement, Elisabeth et Invidiana, certes, ce sont elles qui sont à l'origine du début du roman, c'est elles qui mettent tout en marche. Mais ce ne sont pas les protagonistes du roman. Les protagonistes sont 2 autres personnages qui découvrent le pacte et qui essayent qui enquêtent à ce sujet. Du coup, j'ai vraiment situé ça entre 1588 et 1590, parce que c'était juste après donc l'invincible armada, donc l'Espagne qui attaquait l'Angleterre et qui échouait lamentablement. Et donc j'ai vraiment choisi la période avant que certains personnages ne quittent la cour et parce que je voulais parler d'eux.
Alors on va parler évidemment des personnages que vous avez imaginés, mais puisque nous sommes un peu dans la partie historique, on va dire, de la cour d'Onyx, il y a un personnage qui n'est peut-être pas forcément celui qui est le plus important, mais qui a un rôle clé, et qui est un personnage que moi, j'ai vraiment découvert à travers votre livre, et j'aimerais que vous nous en parliez, c'est Walsingham.
Sir Francis Walsingham, he's one of those people that if you don't really know Elizabethan history, you've probably never heard of him. And then as soon as you start to read Elizabethan history, he is right there because he was really important. His title when he served Elizabeth was Principal Secretary, which in some ways, I might be slightly wrong on my understanding of English political history, but I would say that's kind of the position that over time evolved to be what is now the prime minister. So he was a very, very important official in her court. But it's sort of appropriate that he's not that well known because the other thing that you could call him was Elizabeth's spymaster. He dealt with espionage. And so he wasn't famous, he wasn't at the forefront. He was kind of a Puritan, like I think not officially of that religious sect, but definitely had leanings in that way. So he didn't wear the fancy clothing. He often wore black and was very grim looking. And he's the kind of person who keeps things running from kind of halfway behind the scenes. But it made him a very, very appropriate character for me to use when I needed my characters to be getting involved in intrigue and espionage. Michael Devon, one of the two protagonists of the novel, gets kind of taken under Walsingham's wing as a way of getting himself integrated at court, because, you know, you need some kind of connection to a person with more power than you have. So for Devon, it's Walsingham that he hooks up with, that he connects himself to.
Effectivement, le personnage de Walsingham, si vous ne connaissez pas spécialement l'époque d'Élisabeth Ier, vous n'en avez probablement jamais entendu parler. Par contre, dès que vous allez commencer à faire des recherches sur l'époque, il est partout. Son titre, quand il travaillait pour Élisabeth, était secrétaire principal. Alors, je peux me tromper, mais je pense que c'était l'équivalent du Premier ministre à l'époque. Il n'est pas connu parce que techniquement, il œuvrait surtout en espionnage. Donc forcément, c'est logique qu'il ne soit pas sur le devant de la scène, que tout le monde ne le connaisse pas. Alors, il était souvent vêtu de noir, hein, il ne s'habillait pas bien comme à l'époque à la cour. Mais techniquement, c'était lui qui faisait en sorte que tout se passe bien. Il était un peu derrière les rideaux, mais on ne le voyait pas. Mais c'était lui qui gérait beaucoup, beaucoup de choses. Du coup, forcément, c'est un personnage qui m'a été très utile dans le roman. Et notamment, donc un des protagonistes s'appelle Michael Devon. Et il est pris sous l'aile de Walsingham. Parce que, bien évidemment, on ne rentrait pas dans la cour comme on le souhaitait à l'époque. Il fallait être recommandé par quelqu'un plus haut placé que soi. Et donc, pour Michael Devon, c'est Walsingham qui le fait rentrer à la cour.
Pendant que je lisais votre roman, je suis justement allé voir un peu qui était ce Walsingham. C'est un personnage qu'on dirait sorti d'un roman d'Alexandre Dumas. D'Alexandre Dumas.
Yeah, and actually, when I think about Walsingham, I'll admit I have trouble visualizing him as anything other than the actor Geoffrey Rush, because Geoffrey Rush played him in Shekhar Kapoor's movie Elizabeth, with Cate Blanchett was the actress playing Elizabeth. And that is a movie that definitely shaped how I imagine the period looking. I could get into a complicated discussion of what's accurate and what isn't in the movie, but that's beside the point. When I think Walsingham, I see Geoffrey Rush in my head. And yeah, he's, so it's been a long time since I read The Three Musketeers, so this might not be an appropriate comparison. But I sort of think, like, if Richelieu were actually out for the good of the country rather than his own power, it would kind of be a bit like Walsingham.
Alors quand je pense à Walsingham, je pense forcément à Geoffrey Rush, qui jouait le personnage de Walsingham dans le film de Shekhar Kapoor. C'est vraiment comme ça que je l'imagine. Alors on ne va pas rentrer dans les détails de si le film est vraiment tout à fait exact d'un point de vue historique. Hein. On pourrait en parler pendant longtemps, mais en tout cas, voilà, moi, c'est Geoffrey Rush qui me vient à l'esprit. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas lu Les Trois Mousquetaires, mais je pense que si Richelieu avait œuvré pour le bien du pays plutôt que pour son propre pouvoir, on aurait pu le comparer à Walsingham.
Alors venons aux deux personnages centraux de ce roman, qui alors pour le coup sont des personnages que vous avez imaginés et créés pour l'occasion. L'une, on va comprendre facilement pourquoi, puisque c'est une fée. Donc, et l'autre, qui est celui que vous avez déjà évoqué, qui est ce jeune homme qui cherche finalement une ascension sociale en cherchant à devenir courtisan.
Well, you would think I made up all of the fairies, but a couple of them are actually drawn specifically from folklore. Not very many, and I'm not sure there's any in this book that are directly taken from English folklore. There's a few later on. Devon is one of the few mortal human characters that I made up because almost every single human being in the novel is a real historical person. The exceptions are basically Devon and his family and his servants. And then there is one bodyguard to Queen Elizabeth who I named after someone who helped me with my research into that bodyguard. But almost every single other person is actually a real historical figure. But I knew that I wanted my human character to be somebody that I had made up because I didn't want to be locked into the specifics of a real person's life, Because I'm writing these books as secret history, in the sense that I'm not changing what we know about what happened, I'm adding secret details to it and another layer explaining why things went the way they did, I'm trying to adhere very closely, whenever possible, to the known details of history. So if I had chosen a historical person, if I'd said, like, Shakespeare is going to be investigating this fairy court, all of a sudden I'm doing a lot of things that were not actually Shakespeare's life, and that would have bothered me. But then, yes, the fairy characters are, by and large, made up, and it makes for an interesting effect across the whole series because each book takes place in a different century of English history. It moves up through time as it goes along. So there's continuity with the fairy characters, that you will see many of them over and over again because they're not going to die of old age, whereas the human characters come and go, and they change out for each book because history is changing around these immortal characters.
Alors oui, on peut avoir l'impression que j'ai inventé toutes les fées du roman, mais en fait non, il y en a beaucoup qui viennent du folklore. Alors je crois qu'il y en a qui viennent du folklore anglais, mais pas dans ce roman-là, dans les suivants. Et c'est vrai que Devon, c'est le seul humain qui ne soit pas un personnage historique. Enfin, il y a Devon, sa famille, ses serviteurs, et un garde du corps que techniquement, je lui ai donné le nom de la personne qui m'a aidé à faire des recherches sur le garde du corps. Donc voilà, mais sinon les autres sont tous des personnages historiques.
Celui qui finit mal en plus, bravo. Non, c'est l'autre.
William Tye was the name that I put in there. It has been a decade since I wrote this book. I'll admit I've forgotten details.
Oui, donc quand on parle du garde du corps, c'est William Tye. Parce que bon, comme ça fait 10 ans que je l'ai écrit, ça remonte un peu à loin. Et donc sinon, il fallait quand même que j'ai un personnage qui soit un humain que j'avais inventé pour ne pas avoir à suivre sa vie historique. C'est-à-dire que moi, ce que j'écris comme roman, c'est de l'histoire secrète. C'est-à-dire que je prends l'histoire telle qu'on la connaît et je rajoute d'autres épaisseurs pour expliquer parfois des choses qu'on n'arrive pas forcément à comprendre dans l'histoire, mais je ne change pas les faits historiques. Je rajoute juste une épaisseur avec d'autres personnages pour expliquer ce qui s'est passé. Par exemple, j'aurais pas écrit un roman où c'était Shakespeare qui menait l'enquête, parce que sinon j'aurais été forcée de mentir sur la vie de Shakespeare. Donc ça, c'est pas moi, j'aime pas trop faire ça. Et dans cette série, en fait, chaque roman se passe à un siècle différent. Donc au final, les faits restent, c'est-à-dire que dans les romans suivants, vous allez retrouver des faits qu'on a rencontrés dans ce roman-là. Par contre, forcément, les humains, eux, changent, puisque les humains meurent, hein, contrairement aux fées. Et du coup, vous avez d'autres personnages historiques à chaque roman de la série.
I should probably introduce the characters a little bit more. I realized that I didn't actually do that. Going into this novel, I knew I wanted two people who would be referred to as courtiers, meaning that they're members of the royal court, they're able to kind of go around and talk to the high-ranking people, but they're not themselves in positions of significant power yet. And then, so obviously one of them is a courtier in Invidiana's court, this fairy court that is hidden underneath London. The other is one of Elizabeth's courtiers. And I deliberately made a contrast between them where for Devon, he's kind of a like rising star, that his family has been over the generations kind of rising in power, improving themselves. So now he's the first member of his family to become a member of the court. Whereas for Loon, she's one of Invidiana's courtiers, but she is in disgrace because she had been given a job to do, and although she succeeded, she kind of she promised too much in political negotiations. She did not get what her queen thought was a good deal. So she is now kind of being outcast, and that way I got the contrast between one who's on the rise and one who's on the way down.
Alors, je me rends compte que j'ai peut-être pas vraiment présenté les personnages. Donc, quand j'ai écrit ce roman, je voulais vraiment avoir deux courtisans, c'est-à-dire des gens qui côtoyaient les personnes dans les hautes sphères de la société, mais qui, eux, n'avaient pas encore forcément beaucoup de pouvoir. L'un d'eux vit dans la cour d'Invidiana, donc la cour des fées qui est sous Londres. L'autre vit dans la cour d'Elisabeth. Et je voulais vraiment un contraste entre donc, le personnage dont on a déjà parlé, Devon, qui est une étoile montante. On va dire que sa famille s'est élevée progressivement dans la strate sociale Et lui est le premier à devenir courtisan. Donc la famille évolue vers le haut. Et d'un autre côté, on a Lady Loon qui vit dans la cour d'Invidiana, mais qui est en disgrâce parce qu'on lui avait donné un boulot à faire. Certes, elle a réussi à le faire, sauf qu'elle n'a pas obtenu le bon deal. Enfin, elle a donné, en gros, elle a trop donné. Bon, bref, c'est de la politique. Hein, donc, elle a donné trop d'informations en échange de ce qu'elle demandait. Et du coup, elle est en disgrâce. Donc, je voulais vraiment un contraste entre ces deux personnages. Un qui est en train de monter dans la société et l'autre qui est plutôt en train de descendre.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la cour d'Elisabeth Ier et cette fameuse cour d'Onyx de la reine des fées Invidiana sont superposées l'une à l'autre. On peut dire ça comme ça ?
More or less, it's not quite literally like that because in the Elizabethan period, it was common for the royal court to move between different palaces because essentially they'd move into one palace, they'd live there for a few weeks or months, the place would get kind of filthy, and they would move to another palace where everything was clean and ready for them. So she was constantly in kind of an orbit around London, going between these different palaces. The Onyx Court itself is directly beneath what is specifically the City of London. That's not the whole of London. It's the area that sometimes gets called the Square Mile. That's the oldest part of the city, what used to be within the walls when the city walls were more of a thing. So there is an above and below, but it's not that Elizabeth is ever literally sitting on top of where Invidiana is, because there aren't any royal palaces within that square mile. They're around the edges.
Alors, oui, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que la cour d'Elisabeth vivait dans différents palais. C'est-à-dire qu'ils allaient passer plusieurs semaines, plusieurs mois dans un palais. Et puis, quand ça devenait trop sale, eh ben, ils partaient pour un autre palais qui, lui, avait été nettoyé entre-temps et qui était tout propre. Et du coup, en fait, il gravite comme ça autour de Londres, alors que la cour d'Onyx est vraiment sous la ville de Londres, c'est-à-dire vraiment la vieille ville, la partie la plus ancienne de la ville, qui aurait été à l'intérieur des murs à l'époque où les murs étaient à la mode. Et du coup, ce n'est pas forcément exactement superposé, parce qu'il y en a une qui est sous Londres et l'autre qui gravite peut-être un peu plus autour. Mais bon, c'est quand même l'idée.
L'idée, c'est surtout que l'action, l'intrigue, va beaucoup reposer sur l'interaction entre les humains d'un côté et les fées de l'autre, à différents niveaux, mais en particulier, évidemment, entre vos deux personnages, Devon d'un côté pour les humains et Lune pour la partie fée.
Yeah, the entire kind of driving concept behind the series is that it's fairy interference with mortal affairs, because the fae find mortal things fascinating. They're interesting toys. Some of them are benevolent with their toys, some of them are not. And that was the fun for me of looking at events in English history and saying, how could I have fairies be involved with this without turning human beings into just the puppets of fairies, never actually making their own decisions, never actually doing anything themselves? So, for example, with the Spanish Armada that I mentioned before, there were a lot of factors that went into why the Armada was so thoroughly defeated, and some of it was that the English just had better ships at that point, and some of it was that there had been an attack on the Spanish ships earlier that had done some damage. I won't go into all the details, but it made the Spanish fleet much less seaworthy than it should have been. But then you also have the weather, that there were some big storms that really kind of put the Spanish fleet on very bad footing and made things a lot worse for them. And I can look at something like the storms and say, well, what if that wasn't an accident? What if that was something that the Fae arranged because it wasn't in their interests to have Catholic Spain come in and conquer everything? They didn't like the idea of that. So they took their own steps to help defend England. And then another example of me getting this interference in there, and this gets to the stuff between Elizabeth and Invidiana. Mary, Queen of Scots, who was Elizabeth's cousin and also a potential claimant for her throne, somebody who could have become the Queen of England. There were a lot of wars back and forth. You might learn these in French history because France was very involved in Scotland at that point. And then eventually Mary, Queen of Scots, was captured and held prisoner in England for a long period of time. And Elizabeth went back and forth constantly about whether she should execute her cousin and get rid of that threat to her power, or, but I mean, this is her cousin. You shouldn't kill your family. So she kept on having a hard time making up her mind. And there's evidence that even when she finally gave the order to execute Mary, that like at the last minute she wanted to change her mind, but by then it was too late. And so I looked at that and thought, well, if you have a completely ruthless and cold-blooded fairy queen going, kill her, then that might explain some of the back and forth of Elizabeth's indecision in a way that doesn't take it away from Elizabeth herself, but adds in another factor for why it was so hard for her to make up her mind.
C'est tout le concept, en fait. C'est les fées qui veulent intervenir dans le monde des mortels parce que les fées trouvent que les humains sont fascinants. C'est des super jouets. Et donc, certaines sont gentilles avec leurs jouets et d'autres, beaucoup moins. Et du coup, je voulais vraiment que les fées puissent avoir une influence sur le monde humain sans qu'elles se servent vraiment que les humains ne servent de marionnettes. Et donc, j'ai deux exemples comme ça. Il y a l'histoire de l'invincible Armada. Donc, savoir pourquoi les Espagnols ont été vaincus aussi... de façon aussi évidente.
Parce que sans combattre, finalement.
Oui.
Loin des côtes.
Okay. Donc, pourquoi les Espagnols ont vaincu comme ça ? Donc, il y avait plusieurs facteurs. Il y a le fait que les bateaux anglais étaient sans doute de meilleure qualité. Après, les Espagnols avaient déjà été attaqués un petit peu avant, donc forcément, ils étaient un peu affaiblis. Et ensuite, il y avait le temps. C'est-à-dire qu'il y a eu une tempête. Et du coup, forcément, ça a été plus difficile pour les Espagnols d'attaquer. Et je me suis dit, et si cette tempête n'était pas un accident, mais que c'était les fées qui avaient manipulé le temps, parce qu'ils n'avaient absolument pas envie que ce soit les catholiques espagnols qui prennent le pouvoir. Et du coup, ils ont défendu l'Angleterre de cette façon. Il y a eu un autre exemple, donc dans l'histoire réelle. Hein, donc, Elisabeth avait une cousine, Marie, la reine des Écossais, qui pouvait prétendre au trône de l'Angleterre. Et donc, vous le savez peut-être, parce que la France était très liée à l'Écosse à cette époque-là. Et Elisabeth a réussi à faire de Marie une prisonnière. Et après, elle se demandait si elle devait l'exécuter, parce que quelque part, Marie était une menace pour son pouvoir. Et en même temps... on n'est pas censé exécuter sa famille, comme c'était sa cousine. Voilà. Donc elle a longtemps hésité. Et il paraît que même à la dernière minute, quand elle a donné l'ordre d'exécuter sa cousine, elle a changé d'avis, mais c'était déjà trop tard. Et je me suis dit que si on avait une petite fée sans cœur sur notre épaule qui nous murmurait « Tu l'as !» Et forcément... Forcément, on peut être influencé par ça, changer d'avis sans arrêt, sans qu'on nous enlève, sans enlever à Elisabeth Ier vraiment sa volonté, mais ça explique pourquoi elle a si longtemps hésité quelque part.
Là, ce sont les fées dans le monde humain. Et puis, vous l'avez dit, il y a ces jouets, entre guillemets, parce qu'un humain qui passe vers le monde des fées en subit les conséquences. Et l'exemple type dans le roman, c'est un personnage qu'on connaît sous le nom de Tirésias, qui pour le coup est vraiment le jouet de la reine Invidiana. Moi, il m'a fait penser au Renfield de Bram Stoker.
I hadn't thought of comparing him to Renfield, but I see where you're getting that. Yeah. Yes, there are several human beings that are living among the Fae down in the Onyx Hall, which is the actual palace of the Fae that's underneath London. And yes, for a human being to be down there for a long period of time, on the bright side, you stop aging. That part's nice. On the downside, you lose your mind. It's not good to be a human being living among fairies for years on end. The ones who get brought down there in this book are largely people who have what the Fae consider to be interesting gifts. And Invidiana has this kind of twisted habit of naming them after figures from classical mythology, which is why the one that you mentioned, Tiresias, he actually has a little bit of a prophetic gift. Not super reliable, even less reliable after he starts going insane, but it's kind of there, and that's why she found him interesting. There's another woman who has the ability to see ghosts, and so she gets named Eurydice, which I don't know how you pronounce that one when it's in French. That is giving me the stink eye. She's the woman that, the myth of Orpheus, when he goes into the underworld to try and retrieve his beloved who has died or been stolen down there. So she takes the names from classical mythology. The Fae under Invidiana's rule are not terribly kind to human beings. And so, if they go a little crazy and bad things happen, well, that just makes them more interesting. There's reasons why I say Invidiana is not very nice. It doesn't mean all of the Fae are that horrible, but there's a tendency for people to follow the way their leader behaves. And so when Invidiana is cruel, so are many of the people underneath her.
Alors oui, moi j'avais pas pensé à Renfield, mais je vois tout à fait pourquoi vous faites le rapprochement. Alors effectivement, quand les êtres humains vivent dans la cour d'Onyx pendant trop longtemps, alors il y a un côté positif, c'est qu'ils ne vieillissent plus, donc ça c'est plutôt sympa. Bon, le problème c'est qu'ils perdent la tête, mais bon, ça après, au bout de quelques années, effectivement, ils deviennent fous. Et du coup, les fées ont tendance à amener dans leur cour des humains qui ont des dons, et Invidiana leur donne des noms tirés de la mythologie, donc on a parlé de Tiresias, qui peut être un peu considéré comme un prophète, effectivement, mais enfin, il n'est pas hyper fiable, et il l'est encore moins une fois qu'il devient fou, forcément. Mais bon, il en devient d'autant plus intéressant. Après, il y a un autre humain qui vient dans la cour d'Onyx, qui voit des fantômes, et du coup, son nom... T'as compris, toi ?
Alors, j'ai oublié pour tout venir.
Ah, bah, d'accord. Donc, un nom également tiré de la mythologie, hein. On va retrouver le nom, on va vous redire.
Essayez de retrouver le nom en tout cas.
Eurydice.
Exactement.
Bah oui, voyons.
Merci, enfin, heureusement qu'il y en a qui suivent.
Ouais, c'est ça. Merci. Et donc. Ouais. Non, bah, c'est moi. Et donc, Invidiana la garde également parce que comme elle voit des fantômes, ça l'intéresse. Après, je vous ai dit, hein, Invidiana, ce n'est pas une fée très, très sympathique. Si, après tout, si les humains deviennent fous, à la limite, ils sont encore plus intéressants. Donc, elle n'est pas très sympathique. Ce n'est pas le cas de toutes les fées, mais les fées ont tendance à suivre leur leader, finalement. Donc, si elle est cruelle, ben, les autres le sont aussi.
Alors, c'est le moment de parler justement de l'une et de présenter ce personnage qui, d'une certaine manière... Et presque, par certains côtés, en tout cas, la plus sympathique de ceux qu'on a là, parce que Devon, il a un côté ambitieux qui parfois agace un peu quand même, même s'il est intelligent, même s'il est brillant, etc. Lune, on se prend d'affection pour elle assez facilement. Comme vous l'avez dit, elle est déchue, elle est en disgrâce, elle est pleine de bonne volonté pour essayer de retrouver un statut, mais finalement, elle est peut-être aussi déchue parce qu'elle n'a pas forcément cette fibre courtisane.
It's interesting that you would say she's one of the nicest characters because yes, she is in disgrace and she's trying to win her way back into favor, but in the court that she's in, getting into favor means doing some not very nice things. And so she's not always that good. Like when she goes to infiltrate the mortal court, which is what she's sent to do, she's manipulating people, she's lying to them, she's stealing their secrets. And so that's not entirely nice of her, but you can sympathize with it because she's trying to stay afloat. She's trying to stay alive in a situation where she could very easily find herself being killed. I would say I think the nicest fairy characters in the novel are two sisters, the Goodmead sisters. They are some of my favorites because they're just genuinely nice. Doesn't mean they don't have lots of tricks up their own sleeves and lots of things they're not telling people, but they are more straightforwardly good-hearted, I would say, than just about any of the other fairy characters in the novel.
Alors c'est intéressant de dire que Lady Lune est la plus sympa, parce que techniquement, comme elle est en disgrâce et qu'elle essaye de recouvrer une place, un statut social au sein de la cour, en général, pour ça, il faut accorder des faveurs à la reine, et en général, ces faveurs, c'est jamais des choses très sympas à faire. Donc, par exemple, elle doit s'infiltrer dans la cour des humains, et elle va les manipuler, elle va leur voler leurs secrets, enfin, voilà, c'est pas forcément... On compatit avec elle principalement parce qu'elle essaye surtout de sauver sa peau. Mais sinon, dans les actions, elle fait pas forcément que des choses très recommandables. Et moi, personnellement, les personnages que je trouve les plus gentils pour de vrai dans le roman, ce sont les sœurs Goodmead. Elles sont vraiment gentilles. Alors oui, elles aussi, elles ont des secrets. Enfin, bon, voilà. Mais elles ont vraiment bon cœur par rapport à tous les autres personnages. Je pense que c'est les plus gentilles.
On découvre petit à petit cet univers, ces interactions, les liens politiques. Et évidemment, il y a tout ce jeu avec l'histoire de cette période historique. Et on va découvrir que derrière tout cela, évidemment, il y a des manigances, des complots, des compromissions également. Y a un côté un peu thriller finalement dans cette cour de Nyx.
Yes, it's very much a novel of political intrigue and espionage and a layer of ancient magical pacts, that kind of thing. But yes, it is. Well, I was going to say it's one of the most political things I've written in terms of what the type of plot is, but that's only true if I mean the series as a whole, because the next book in the series involves the English Civil War. That gets really into English politics and some things there. But I counterbalance it by burning most of the city down at the end. It's got the Great Fire of London as the climactic thing in that book, just to leaven the, to break up the politics a little bit. But yeah, I wanted to write something that was a this kind of complex plot where it's a lot of people keeping secrets and piecing together who knows what, and when you put them all together, oh, you go, that's what's going on. Oh, crap, that's not good. So it was a challenge to write. I definitely felt when I was working on it that this has happened to me a couple of times, that every so often I'm going along and I'm writing things, and I'm obviously working on improving all the time. And then there's moments where it kind of goes boing and it jumps up a little bit of, okay, I just tried to write something much harder than what I've done before. And this was one of those kinds of books where I had to give it everything I had and then a little extra, and at the end felt kind of wrung out from doing it.
Effectivement, c'est un roman qui est vraiment basé sur l'intrigue politique et l'espionnage, et en plus une petite histoire de pacte magique. Je pense que c'est un des romans les plus politiques que j'ai écrit, point de vue histoire, mais il faut envisager la série dans son ensemble dans ce cas-là, parce que bon, c'est vrai que le roman d'après, c'est la guerre civile anglaise. Bon, je termine par le grand incendie de Londres pour balayer un peu la politique, parce que sinon c'était vraiment beaucoup. Mais je voulais vraiment une intrigue complexe où on apprenait au fur et à mesure qui savait quoi, et une fois qu'on remettait tout bout à bout, on se disait « Ah, c'est ça qui se passe !» Donc que ça fasse vraiment une vue d'ensemble. Et le défi, c'était vraiment... Bah, quand j'écris, j'essaye forcément toujours de m'améliorer. Y a des moments où tout à coup, ça monte d'un coup. Et là, c'est ce que je me suis dit quand j'ai écrit ça, je me suis dit... C'est vachement plus difficile que ce que tu fais d'habitude quand même. J'ai vraiment tout donné pour ce roman-là et plus encore. Et franchement, à la fin, j'étais épuisée.
En tout cas, félicitations, parce que c'est vraiment un roman passionnant. Ce qui est amusant, alors comme visiblement il y a eu des gens qui l'ont déjà lu dans la salle, vous aurez peut-être remarqué aussi avec moi, c'est que Marie Brennan en parle très bien parce qu'elle réussit à brouiller quand même un peu les pistes. Nous avait aiguillé vers des pistes qui ne sont pas les bonnes, en particulier certaines. Et voilà, vous comprendrez si vous l'avez lu pourquoi, par exemple, on n'a pas évoqué le titre de ce premier roman, parce qu'il faut comprendre pourquoi il s'appelle Mes nuits jamais ne viennent, et ces petits aspects-là. Et ben voilà, c'est aussi une vraie découverte. Alors, sensiblement différente, évidemment, si vous avez découvert Marie Brennan il y a 2 ans avec Lady Trent, hein, on est vraiment dans quelque chose d'autre. Mais voilà, ce cycle devrait se poursuivre, j'imagine, chez la Talente, avec les 3 autres volets qui, on l'a compris, se déroulent à des périodes historiques différentes. Ça a été, je crois, au départ, si j'ai bien compris, parce que je vous ai entendu dans une autre table ronde, au départ, ça devait être un one-shot, en fait.
Yes, I originally was just going to do this one book because it has this central conflict about this pact between the two queens and what's going to be done about it, and that was done, and the book was done. And this actually gets to what you were saying about it seems very different from the memoirs of Lady Trent, and it is. But the reason it turned into a series is that I did an interview for Midnight Never Come, and somebody asked me what a fairy mirror of Queen Victoria in the 19th century would have looked like. And my thought was that I didn't think she would have had one, because Elizabeth was built up as Gloriana, as the fairy queen, as this very mythologized figure, and Queen Victoria was very domestic and ordinary in lots of ways. So it didn't feel to me like she would have a fairy mirror in the same way. But then I thought about some of the things going on during her reign and thought, well, there's a plot in that, because Onyx Court, the Onyx Hall, is underneath London. What else is underneath London starting in the Victorian period? The underground. Trains on iron rails. Fairies don't like iron very much. But, well, I could build a plot out of that. And then ended up doing two books in between, first to do some other conflicts. But then, from my perspective, the last book of this series takes place in the Victorian period, which is about the same time period that the memoirs are in. Now, it's a very different kind of story, but it meant that I had that time period and some of the issues around, like, science and scientific discovery very much on my mind. So it is still a different type of story when you go from With Fate Conspire, which is the last of the Onyx Court books, to A Natural History of Dragons. It is a tonal shift. But in terms of setting, there are some connections there that are why I went sideways into that.
Alors, oui, effectivement, au début, ça devait être un seul roman. Déjà parce que c'était basé sur ce pacte entre deux reines. Donc, une fois que cette histoire-là était terminée, le livre était terminé. Ça paraissait logique. Effectivement, vous avez dit que c'était très différent de Lady Trent. En fait, c'est devenu une série parce qu'on m'a interviewée sur la cour d'Onyx et on m'a demandé à quoi aurait ressemblé une fée qui aurait été le miroir de la reine Victoria, donc au XIXe siècle. Et dans ma tête, je me suis dit, autant Elisabeth Ière, c'était une reine, on l'appelait Gloriana, c'était le soleil, tout ça, donc je voyais bien un miroir négatif. Mais la reine Victoria, elle est beaucoup plus banale, enfin, elle n'a rien d'extraordinaire. Du coup, je ne voyais pas trop comment on pourrait lui faire une fée qui soit son contraire. Mais j'ai commencé à y réfléchir. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque victorienne quand même? Parce que donc, la cour d'Onyx est à Londres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Londres? À l'époque victorienne, on a commencé à construire des trains souterrains. Le fer, les fées, elles n'aiment pas ça. Donc, je me suis dit, par contre, il y a peut-être moyen de trouver une histoire à partir de là. Et du coup, j'ai écrit deux autres romans avant qu'on arrive à l'époque victorienne. Mais si on prend le dernier roman du coup de la cour d'Onyx, ça se passe à l'époque victorienne, la même époque donc que les mémoires de Lady Trent. Alors clairement, c'est pas du tout le même style d'histoire, mais du coup, comme j'avais déjà travaillé pour la cour d'Onyx sur cette époque, j'avais beaucoup de choses à l'esprit sur comment travaillaient les scientifiques à l'époque. Et du coup, c'est un peu le lien, c'est ce qui m'a fait passer de la cour d'Onyx à Lady Trent. C'était quand même la même époque, il y avait beaucoup de choses en commun, mais par contre, clairement, les histoires sont complètement différentes.
On arrive au terme de cet entretien. Merci beaucoup, Marie Brennan. Merci pour votre gentillesse, votre disponibilité. Et j'espère qu'on vous aura donné envie de découvrir cet univers particulier de fantasy historique, hein, qui est finalement un genre à part et particulier, puisqu'il joue avec des repères différents d'un univers de fantasy traditionnel, totalement imaginé. Et on vous invite à découvrir le travail de Marie Brennan, ce qui est disponible, c'est-à-dire la majeure partie de la série Lady Trent, et puis donc ce premier volet de la cour d'Onyx. Et puis pourquoi pas d'aller continuer la discussion et d'aller retrouver Marie Brennan sous la bulle du livre pour des dédicaces et de nouvelles explications ou des questions qui vous seraient venues à l'esprit pendant cet entretien. Merci beaucoup, Marie.